Voilà, bonsoir à tous. J'ai la joie de reprendre avec vous donc notre bel itinéraire, la découverte de ces grandes figures spirituelles et surtout de ce qu'elles nous rappellent, hein, de notre mystère chrétien, de notre vie chrétienne. Et donc ce soir, nous allons parler de Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, c'est la première femme qui a été proclamée docteur de l'Église en 1970 par Paul VI. Et c'est aussi donc la deuxième femme que nous rencontrons dans notre parcours. Je signale ça en commençant parce que vous verrez que dans la manière dont Thérèse d'Avila raconte, écrit, eh bien on sent cette sensibilité féminine. Hein, elle a une manière très particulière. Très différente, par exemple, d'Ignace de Loyola, dont on a parlé la semaine dernière. Pourtant, on reste à la même époque, et dans le même pays qu'Ignace. Nous restons en Espagne, et Thérèse naît à Avila en 1515, et elle meurt en 1582. Donc, vous voyez, on est à peine un quart de siècle de décalage par rapport à Ignace de Loyola. Donc, on est en plein siècle d'or espagnol, cette période de grand rayonnement politique, culturel de l'Espagne sur l'Europe, hein, des 16e, 17e siècles. Donc une période de grande vitalité littéraire, artistique. Donc juste des brefs rappels historiques, hein, pour situer bien le contexte dans lequel Thérèse va évoluer. En 1516, donc à peine un an après la naissance de Thérèse d'Avila, Charles Quint devient roi d'Espagne, hein, puis empereur en 1520. Et l'Espagne devient alors la plus grande puissance d'Europe, hein, de la Méditerranée jusqu'aux Flandres. Les royaumes de Castille et d'Aragon, hein, donc la Castille, c'est le pays de Thérèse, hein, connaissent une grande période de prospérité. Et puis quand Charles Quint abdique en 1556, c'est son fils Philippe II qui lui succède et qui va devenir le souverain le plus puissant d'Europe. Il sera aussi un farouche défenseur de la contre-réforme, promu donc par le concile de Trente qui vient de se dérouler. Donc Teresa de Ahumada, hein, de son nom, naît donc en 1515 et comme elle le raconte elle-même dans son livre de la vie, hein, une sorte d'autobiographie spirituelle, elle a des parents vertueux et craignant Dieu. Hein, c'est quasiment les premiers mots de sa vie. Et elle a 9 frères et 2 sœurs. Oui, une belle famille de 12 enfants, dans laquelle elle grandit donc avec un grand climat de ferveur, hein, un climat très pieux. Et pour vous donner juste un exemple que la plupart d'entre vous connaissent certainement, donc elle lit déjà très jeune La vie des martyrs, hein, elle doit avoir 8 ou 9 ans quand elle décide avec un de ses frères, pour faire comme les martyrs, de quitter la maison, de partir au pays des morts en demandant l'aumône sur le chemin avec comme ambition de se faire trancher la tête. Et donc elle a 9 ans, elle part avec un de ses frères qui est, hein, et puis donc ils font à peine quelques centaines de mètres quand un oncle les rencontre sur la route et les ramène de gré ou de force à la maison, et elle dit mais je veux voir Dieu, je veux voir Dieu, hein, vous voyez, donc un tempérament déjà fort éveillé et une détermination, hein, qu'elle gardera toute sa vie. Elle perd sa maman à l'âge de 12 ans. Et je vous signale ça parce que à l'époque, donc à ce moment-là, elle demande explicitement à la Vierge Marie d'être sa mère. Et puis à l'adolescence, elle va se laisser peu à peu gagner par les distractions du monde. En particulier, elle dévore les romans de chevalerie, hein, qui abondent non seulement dans la maison familiale, mais dans toute l'Espagne. Hein. Mais grâce aux moniales augustiniennes de Sainte Marie des Grâces, donc à Avila, chez lesquelles elle est élève, eh bien elle grandit également dans le recueillement et la prière, hein, et elle se nourrit aussi de livres spirituels de grande qualité, en particulier les classiques de la spiritualité franciscaine. Et donc à l'âge de 20 ans, elle va décider d'entrer au monastère carmélite de l'Incarnation, et elle prend le nom de Thérèse de Jésus. Alors cette communauté carmélite, c'est une communauté très nombreuse, hein, puisqu'il y a près de 180 religieuses, mais de style très moyenâgeux, pour dire les choses en bref. Et puis, donc, à peine 3 ans plus tard, peu après sa profession simple, elle va tomber très gravement malade, hein, au point de rester 4 jours dans le coma, où on la croit morte quasiment. En tout cas, on s'attend à la voir expirer d'un moment à l'autre. Et puis, elle va rester encore 8 mois entre la vie et la mort. Et puis ensuite, encore 3 ans, quasiment paralysée, hein, en se remettant très très lentement. Et donc, en fait, Thérèse aura toute sa vie une santé assez défaillante. Mais loin de l'affaiblir ou de la décourager, eh bien cette longue maladie, 4 années de maladie en pleine jeunesse, eh bien vont au contraire façonner en elle un moral d'acier, hein, et ne vont faire que renforcer sa détermination. Alors ensuite, je fais bref là aussi, hein, bon, elle passe des années de vie religieuse dont elle se désolera beaucoup plus tard. Une vie religieuse assez quelconque, dirons-nous, hein. Elle perd du temps, comme elle dit, hein. Elle va même abandonner l'oraison pendant plus d'une année parce qu'elle ne s'en sent plus digne, hein, parce qu'elle sent qu'elle est un peu éloignée du Seigneur. Et puis c'est au bout de près de 20 ans de vie religieuse que Thérèse va vivre une sorte de seconde conversion, de seconde vocation, hein. À un moment, elle entre dans l'oratoire et elle trouve une petite statue, donc c'est elle aussi qui raconte ça dans son autobiographie, une petite statue que le couvent venait d'acquérir en prévision d'une fête à célébrer, et c'est une petite statue d'un Christ tout couvert de plaies. Et en fait, devant cette statue, eh bien, Thérèse est bouleversée. Et tout d'un coup, elle réalise, ou en tout cas elle le savait, mais enfin, elle est touchée ce jour-là de réaliser tout ce que le Christ a souffert pour elle. Et elle en est bouleversée, et c'est comme une seconde conversion, une vocation dans la vocation, si vous voulez. Elle va, de ce petit événement, hein, elle va garder l'habitude toute sa vie de méditer sur la passion du Christ, et puis on y reviendra, de ne jamais quitter, hein, l'humanité sainte du Christ, hein, même dans les plus hauts états de la vie mystique. Elle recommandera toujours à ses sœurs de ne jamais quitter l'humanité sainte du Christ. Alors en même temps que cette vocation dans la vocation, en même temps que cet approfondissement de sa vie de prière, eh bien elle commence à développer aussi dans son esprit l'idéal d'une réforme du Carmel. Finalement, elle veut faire entrer ses sœurs dans ce même élan qu'elle-même vient de redécouvrir. Et donc avec le soutien de l'évêque de la ville, avec l'approbation du supérieur de l'ordre du Carmel, elle va fonder à Avila, en 1562, le premier Carmel réformé, hein, comme on dit. Et ça n'est que le premier d'une longue série, hein, puisque dans les années qui suivent, elle va fonder jusqu'à 17 Carmels. On connaît bien sûr sa rencontre avec le tout jeune Jean de la Croix, hein, qui va aussi donc participer avec enthousiasme et ferveur à cette réforme du Carmel. Donc c'est avec lui qu'elle va fonder en 1568 à Duruelo, hein, non loin d'Avila, le premier couvent de carmélites déchaussés, hein, comme on va les appeler. Alors, c'est aussi à cette époque, j'y reviendrai, en 1565, qu'elle va écrire donc le livre de la vie. Hein, elle écrit ce livre dans l'obéissance, hein, pour remettre son âme à ceux qui la dirigent et vraiment être assurée de l'authenticité de sa vie de prière et de ce qu'elle vit. Donc, c'est à la fois un récit de sa vie, mais plus qu'une biographie, c'est plus un récit de ce que Dieu a fait dans son âme. Hein. Et alors donc ces nombreuses fondations et puis ce livre de la vie vont peu à peu éveiller des suspicions sur sa vie de prière, sur la réalité de sa vie mystique, des jalousies, au point que Thérèse va être dénoncée à l'Inquisition et qu'elle va donc devoir comparaître devant le tribunal de la foi. Et son livre de la vie est séquestré par les inquisiteurs, il ne sera rendu que plusieurs années après la mort de Thérèse. Et donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, eh bien, il s'ensuit toute une période d'années orageuses, où tout d'un coup les supérieurs de l'ordre, le nonce du pape, ne soutiennent plus la réforme du Carmel. On sait que Jean de la Croix, je n'en parle pas ce soir, mais Jean de la Croix lui-même va être arrêté, hein, emprisonné pendant plusieurs mois. Et puis donc, il va falloir attendre 1580 pour que Thérèse obtienne, voilà, dans un climat plus paisible, Thérèse va obtenir donc de Rome l'approbation pour ériger en province autonome ses Carmels réformés. Donc tout se pacifie, tout est approuvé. Et c'est donc le point de départ de l'ordre religieux des Carmélites déchaussés. Donc elle va poursuivre des fondations. Et c'est au retour du Carmel du Burgos, hein, qu'elle vient de fonder en 1582, donc pendant le voyage de retour à Avila, que Thérèse d'Avila meurt, donc la nuit du 15 octobre. Et on connaît les deux phrases célèbres qu'elle a prononcées, même répétées avant de mourir. Hein, à la fin, ou enfin, je meurs en fille de l'Église. Je vous dis ça aussi parce que ce sont des idées clés, hein, sur lesquelles je vais revenir. Je meurs en fille de l'Église. Et puis une parole qu'elle adresse directement au Seigneur. Rappelez-vous, quand elle était toute petite, hein, je veux voir Dieu, quand elle voulait aller se mourir comme les martyrs, et elle meurt en disant, l'heure est à présent venue, mon époux, que nous nous voyons. L'heure est à présent venue. Donc parmi ses œuvres majeures, donc ce livre de la vie que je vous ai cité à l'instant, que Thérèse aime appeler le livre des miséricordes du Seigneur, hein, 1565. Donc je vous le disais, hein, l'objectif c'est de remettre son âme, donc c'est Jean d'Avila, hein, qui est à l'époque un maître spirituel reconnu, qui reçoit ce livre et qui a mission, hein, de confirmer Thérèse dans l'authenticité de sa vie contemplative et de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et puis juste après, en 1566, Thérèse écrit une autre œuvre importante. Donc classiquement, on l'appelle le chemin de perfection, mais Thérèse d'Avila l'appelle plus exactement admonestation et conseil que donne Thérèse de Jésus à ses moniales. Hein, donc rien que le titre vous donne le but de l'ouvrage, hein, c'est un ouvrage qui est écrit pour les 12 novices du Carmel d'Avila. Et Thérèse leur propose un intense programme de vie contemplative au service de l'Église. Et à la base de tout ce programme de vie contemplative, de prière, hein, se trouvent les vertus évangéliques, hein, les vertus humaines et chrétiennes. J'y reviendrai aussi. Et puis, troisième œuvre capitale qu'il faut mentionner, donc le château intérieur, qu'on appelle aussi le livre des demeures. Donc une œuvre plus tardive, hein, 1577, donc à peine 5 ans avant sa mort. Hein. Donc c'est vraiment, comme on pourrait dire, le condensé, l'œuvre de la pleine maturité de Thérèse, hein, là où elle va livrer tous les... vraiment les plus grands secrets de son expérience de prière. Mais c'est aussi les années, donc je vous le disais à l'instant, les années orageuses, hein, où Thérèse est dans une situation très délicate, le livre de la vie est entre les mains de l'Inquisition, son œuvre de réforme du Carmel rencontre les plus vives oppositions, et pourtant rien ne transparaît, oui, de cette crise dans son texte. Hein. Thérèse relie son chemin de vie spirituelle, elle donne comme un déroulement détaillé, hein, de l'itinéraire de la vie chrétienne vers la sainteté, vers l'union avec Dieu, sous l'action de l'Esprit-Saint. Et donc elle va partir de ce symbole du château, hein, dont on lira quelques extraits, un château aux multiples demeures, avec le roi, hein, l'époux, Dieu, qui demeure au centre, hein, dans la pièce centrale du château. Voilà, et donc la prière, c'est comme un itinéraire de demeure en demeure pour arriver jusqu'à ce centre du centre de l'âme dans laquelle demeure la Trinité. En plus de ces trois livres, hein, que je vous citerai à tel ou tel moment, j'ajoute une autre œuvre importante, hein, le livre des fondations. Je n'ai pas mis d'extrait sur la feuille de route, mais c'est un livre intéressant dans lequel elle va justement raconter les débuts du groupe religieux naissant, hein, de ce Carmel réformé. Et là aussi, ce qu'elle s'attache surtout à faire, c'est de mettre en évidence l'œuvre de Dieu, hein, l'action de Dieu, la providence de Dieu, les signes de la bénédiction de Dieu sur cette œuvre de fondation des nouveaux monastères. Alors, je vous donne maintenant quelques clés de lecture. Il y en aurait sûrement d'autres, mais en tout cas, ils ont trois clés de lecture de la pensée de l'œuvre de Thérèse d'Avila. La première clé, je vais m'intéresser surtout au style de Thérèse. Je vous le disais tout à l'heure, Thérèse est une femme, elle raconte son expérience. Elle part toujours de son expérience personnelle. Elle n'a pas de formation universitaire. Elle répète très souvent dans son œuvre qu'elle n'est qu'une femme. Elle ne sait rien par rapport à tous ces ecclésiastiques très savants à qui elle soumet d'emblée sa pensée. Elle n'a que son expérience à raconter. Donc elle se présente elle-même comme sans instruction ni science, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, hein, parce qu'elle a lu vraiment de nombreux auteurs spirituels, elle a lu les Pères de l'Église. Mais surtout, et donc c'est le premier point sur lequel j'insiste, c'est qu'elle excelle dans l'art de raconter son expérience. C'est vraiment un écrivain de génie, Thérèse d'Avila. Quoi qu'elle en dise, parce qu'elle passe son temps à dire qu'elle ne sait pas comment exprimer, qu'elle ne sait pas comment raconter. Mais elle excelle à raconter son expérience avec une intelligence non seulement très féminine, mais très maternelle. Vous voyez, au sens où elle prend son lecteur par la main. Et elle considère d'emblée son lecteur, pas comme un inconnu. Vous voyez, c'est normal, hein, parce qu'elle écrit en premier lieu à ses sœurs, donc à ses filles. Et donc elle considère d'emblée son lecteur comme un... vraiment comme un ami, comme un confident. Et donc non seulement elle est très pédagogue, hein, elle emploie des nombreux symboles concrets, des images qui parlent à l'âme, hein, mais, et là je reprends une expression du pape Benoît XVI, hein, dans l'audience générale qu'il a consacrée à Thérèse d'Avila, dit Thérèse, elle n'est pas seulement pédagogue, elle est mystagogue. C'est-à-dire qu'elle enseigne au lecteur à prier en priant avec lui. Et c'est ça, le mystagogue, c'est pas seulement celui qui est pédagogue au sens où il trouve les exemples qui parlent, qui permettent de comprendre, mais elle fait le chemin avec le lecteur pour qu'il entre dans l'expérience qu'elle-même a faite. C'est pour ça que fréquemment elle interrompt son récit en laissant parler son cœur par des prières, par exemple. Et donc le lecteur partage les prières de Thérèse. Il est introduit à l'intérieur même de sa vie de prière. Donc ça, c'est une première clé de lecture. La deuxième clé, alors, c'est que Thérèse, elle entrelace constamment plusieurs fils dans sa pensée. C'est une spiritualité très profonde et unifiée. Il y a toujours plusieurs éléments qu'il faut tenir ensemble. Par exemple, deux choses qu'il faut toujours tenir ensemble chez elle, c'est la dimension très personnelle de la prière, l'intériorité, il faut que l'âme rentre en elle-même, se recueille, etc. Et en même temps, cette prière, elle a une dimension ecclésiale. Et donc, la personne et l'Église. Et on ne peut jamais séparer les deux chez elle. Elle dit elle-même, si elle a entrepris la réforme du Carmel, c'est pour servir l'Église. En particulier... Elle dit elle-même, elle se lamente de voir les progrès de la réforme, elle voit les manques de ferveur dans l'Église, elle voit la mission, l'horizon immense qui s'ouvre à l'Église avec la découverte du Nouveau Monde. Et elle dit, mais qu'est-ce que je pouvais faire, moi, pauvre femme, sans science, sans instruction? Ben, je décidais de faire le petit peu que je pouvais. Et donc, si elle fonde le Carmel, c'est ces petites communautés qu'elle va appeler des colombiers de la Vierge, hein, c'est pour avoir des petites communautés ferventes qui vont intercéder pour les besoins de l'Église, prier pour les théologiens, prier pour les ecclésiastiques, mais porter les intentions de l'Église et féconder son activité apostolique. Donc ça, c'est vraiment une clé. Hein. Chez Thérèse, l'oraison, aussi personnelle, silencieuse et intérieure qu'elle soit, a cette immense portée ecclésiale. C'est pas je prie pour moi-même. C'est, au contraire, dans la prière, je donne ma vie pour l'Église. Je voulais un petit passage mais que vous n'avez pas. Donc, c'est dans le chemin de perfection, le premier chapitre. Je résolus de faire le peu qui dépendait de moi, c'est-à-dire de suivre les conseils évangéliques avec toute la perfection dont je serais capable, et de porter les quelques âmes qui sont ici à faire de même, en me confiant en la grande bonté de Dieu. Il me semblait qu'en nous occupant toutes à prier pour les défenseurs de l'Église, pour les prédicateurs et les théologiens qui soutiennent sa cause, nous viendrions, selon notre pouvoir, au secours de mon maître bien-aimé. Le monde est en feu. On veut, pour ainsi dire, porter à nouveau une sentence contre Jésus-Christ, puisqu'on le charge de 1000 calomnies. On cherche à renverser son Église et nous perdrions du temps à présenter à Dieu des requêtes qui, si elles étaient exaucées, feraient peut-être que nous aurions une âme de moins dans le ciel. Elle pense là aux intentions de peu d'importance qu'on vient parfois leur confier. Dit non, mes sœurs, ce n'est pas le moment de traiter avec Dieu des affaires si peu importantes. Voilà. Ce qui importe dans la prière, c'est le bien de l'Église, c'est de prier pour les théologiens, etc. Autres fils qui sont toujours entrelacés chez Thérèse, donc là je vous ai parlé de prière personnelle, dimension ecclésiale. L'autre lien très important, c'est de ne jamais séparer chez elle les plus grandes profondeurs mystiques avec le plus grand réalisme humain. Tout ce que Thérèse va dire sur la prière est toujours chez elle intimement noué, lié au concret de la vie fraternelle, au réalisme humain de la personne avec ses limites, avec ses fatigues, etc. Et je vous lirai quelques passages sur les vertus humaines, chrétiennes, qu'elle invite à cultiver dans la vie fraternelle. Et elle dit, mais sans ces vertus évangéliques, qui, vous allez voir, sont à la fois mesurées, mais très exigeantes à vivre, eh bien, il n'y a pas de vie de prière authentique. Donc c'est important ce point-là aussi, parce que ça évite toute fuite, vous voyez, toute fuite du réel ou toute illusion dans la prière. Et Thérèse met souvent en garde, elle dit, voilà, justement, si une sœur a des grands élans mystiques dont on doute un peu de l'authenticité, etc., voilà, faites-lui faire des services manuels, mettez-la au jardin, mais un grand réalisme humain. Et puis, troisième clé de lecture, cette vie de prière elle-même n'est évidemment pas un état statique, quelque chose d'acquis, mais c'est un itinéraire, c'est une histoire d'amour, c'est une marche, c'est un chemin, c'est un approfondissement sans fin de la relation de l'âme avec Dieu. Donc il y a quelque chose d'extrêmement dynamique, en fait, dans la pensée de Thérèse. Et chemin de perfection, c'est un chemin. Le livre des demeures, alors première demeure, deuxième demeure, troisième demeure, quatrième demeure, on avance constamment chez elle. Et on avance pas n'importe comment, on avance en soi, dans un approfondissement constant qui fait que je suis appelée à une intériorité, à une intériorisation, à entrer en moi-même, pour y rencontrer Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une entrée en soi-même qui serait une sorte d'introspection ou de repli sur soi, une fermeture en soi-même, surtout pour prier sans être dérangé par l'extérieur. C'est une entrée en soi-même parce que c'est là que Dieu demeure et que c'est là que je dois rencontrer l'hôte divin qui demeure dans mon âme. Je vous cite un théologien espagnol, un carme, spécialiste de Thérèse d'Avila, Castellano Cervera, qui dit « La mystique thérésienne est une mystique de la présence qui part du « cherche-moi en toi » et s'achève dans le « cherche-toi en moi ».« Cherche-moi en toi », donc là c'est Dieu qui parle, « cherche-moi Dieu en toi, dans ton âme », et ensuite cherche-toi en moi. Donc on va de la présence de Dieu dans l'homme à la présence de l'homme en Dieu. Voilà, donc une vie de prière conçue comme une intériorité à la rencontre de l'hôte divin qui me veut tout uni à lui. la mystique de la présence, mystique de l'union, avec le désir, la quête d'une plénitude, d'une sainteté qui n'est rien d'autre que d'être parfaitement unie à Dieu. Dans les septièmes demeures, Thérèse dira, dans cette demeure, l'âme n'est pas autre chose que Dieu. Être un avec lui. Voilà, trois clés de lecture qu'on peut garder présentes à l'esprit. Alors maintenant, je voudrais dans cette soirée regarder deux grandes parties avec vous. Là aussi, j'ai conscience que c'est tout à fait insuffisant pour parler de Thérèse d'Avila, parce que c'est là aussi une figure sur laquelle on pourrait passer toute une année, évidemment. Mais si ça peut du moins vous donner le goût d'aller vous-même lire Thérèse d'Avila, nous n'aurons pas perdu notre temps. Ou en tout cas, à défaut de la lire, si ça peut au moins nous réveiller dans la vie d'oraison, ça sera déjà immense. Donc, dans un premier temps, je voudrais parler de ces fondements du château intérieur. Donc le château, c'est l'âme pour Thérèse. Les fondements du château intérieur. Elle est bien embarrassée quand elle commence à écrire son œuvre, là encore, parce qu'on la lui a demandé dans l'obéissance. Elle dit « Oh là 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 là, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas par où commencer. » Mais voilà qu'aujourd'hui, dans la prière, m'est venue à l'esprit l'image du château. Et donc, je vais fonder toute ma pensée sur ce symbole du château. Alors, je lis peut-être le début. Vous avez ça sur la feuille de route. « Nous pouvons considérer notre âme comme un château fait d'un seul diamant ou d'un cristal parfaitement limpide et dans lequel il y a beaucoup d'appartements, comme dans le ciel, il y a bien des demeures. » Alors, il faut se souvenir, pour comprendre comment Thérèse a eu cette image-là, que Avila, c'était une forteresse entourée d'une enceinte couronnée de 80 tours. Donc, elle avait sous les yeux, dans sa ville natale, cette forteresse. Donc, elle a puisé là, certainement, son inspiration pour regarder l'âme comme un château intérieur. Donc, Avila, vous voyez, il y avait donc toutes les portes d'entrée qui étaient situées dans les murs de la ville, et qui toutes conduisaient au centre, jusqu'au palais du roi. En effet, mes sœurs, si nous y réfléchissons bien, l'âme du juste n'est autre chose qu'un paradis où le Seigneur, comme il nous l'assure lui-même, prend ses délices. Et c'est très beau ça de voir. C'est une référence biblique, Proverbe chapitre 8, où il nous est dit que la sagesse prend ses délices avec les fils des hommes. Donc c'est l'image d'un Dieu qui est heureux de demeurer dans l'âme de l'homme. C'est magnifique parce que nous, quand on pense à la prière, on cherche d'abord notre propre bien. On dit, bon voilà, se reposer auprès de Dieu, trouver sa joie dans le Seigneur. Ah, mais la première idée que nous donne Thérèse, c'est celle d'un Dieu qui prend ses délices dans l'âme humaine. C'est l'âme qui est pour Dieu un paradis dans lequel il aime marcher, se promener. Donc tout de suite, voyez l'idée d'une relation avec Dieu qui est une relation d'allégresse, une relation de bonheur, pas seulement pour l'homme, mais aussi pour Dieu. Et les sept demeures, sept c'est un chiffre symbolique, c'est une plénitude, mais Thérèse dit elle-même qu'il y en a une infinité de demeures. Il y en a sept, mais il y en a partout, sur tous les côtés, en haut, en bas, devant, derrière. C'est cette image des demeures, ce symbole, décrit tous les degrés de vie, de communion entre l'homme et Dieu. Mais c'est vraiment une communion de délices, d'allégresse, qui réjouit aussi bien Dieu que l'âme. Mais que penser, je vous le demande, de l'appartement où un roi si puissant, si sage, si pur, si riche de tout bien, prend plaisir à résider. Pour moi, je ne vois rien à quoi l'on puisse comparer l'excellente beauté d'une âme et son immense capacité. Sans doute, ce château est créé, et par là même, il y a entre lui et Dieu toute la distance qui sépare le Créateur et la créature. Mais il suffit que l'âme, comme sa majesté nous l'assure, soit faite à son image pour que nous concevions quelque chose de son excellence et de sa beauté. » Donc vous voyez, c'est très intéressant, hein, la démarche de Thérèse, c'est de la joie que Dieu trouve à résider dans ce petit palais qu'est l'âme de l'homme. Bien, Thérèse en déduit, mais comme cette âme est noble et belle, puisque Dieu, l'hôte parfait, le souverain, a choisi l'âme pour y résider. Donc c'est la joie que Dieu a à demeurer dans l'homme qui nous révèle à quel point notre âme, notre personne humaine, est noble et belle. Et là, évidemment, Thérèse prend une deuxième référence biblique, hein. L'âme créée, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il suffit que l'âme soit faite à son image, à l'image de sa majesté, hein, pour que nous concevions quelque chose de son excellence et de sa beauté. Donc Thérèse parle de l'excellente beauté d'une âme, hein, à l'image de Dieu, et de son immense capacité, hein, très beau, l'âme capable de Dieu, immense capacité, hein, l'âme capable de Dieu, faite pour Dieu, hein, l'âme à Dieu pour vocation. Elle n'atteint finalement ce pourquoi elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu que quand elle abrite dignement, hein, celui qui l'a créée. C'est sa vocation. Tout le reste n'est qu'accessoire, hein, à côté de cette vocation essentielle de l'homme. Donc vous allez voir, Thérèse, c'est très, très construit comme raisonnement. Hein. Aussi, quelle pitié et quelle honte que par notre faute, nous ne nous connaissions pas nous-mêmes et que nous ignorions ce que nous sommes. Si l'on demandait à quelqu'un qui il est et qu'il ne puisse pas répondre, qu'il ne sache pas davantage quel est son père, quelle est sa mère et quel est son pays, que dirions-nous, mes filles, d'une pareille ignorance ? Et tout des petits exemples concrets, hein, qui sont presque évidents. Eh bien, s'il y a là une stupidité étrange, hein, ne pas savoir qui est ma mère, mon père, mon pays, eh bien, notre stupidité est sans comparaison plus grande encore quand, peu soucieux d'apprendre la dignité de notre être, nous ne nous arrêtons qu'à nos misérables corps. Nous savons confusément que nous avons une âme, parce que nous l'avons entendu dire et que la foi l'enseigne. Mais les biens que peut renfermer cette âme, l'hôte qui y séjourne, le prix inestimable qu'elle vaut, c'est à quoi nous réfléchissons rarement. De là notre négligence à conserver sa beauté. Et donc elle part, vous voyez, des délices que Dieu a à demeurer dans l'âme pour affirmer la noblesse et la beauté de cette âme. Et puis elle dit, bah, c'est tellement désolant que nous soyons finalement si indifférents à cette noblesse, à cette beauté, comme nous sommes peu attentifs à l'hôte divin qui y séjourne. Eh bien, nous négligeons cette âme, nous négligeons sa beauté. Qu'est-ce qu'elle veut dire, hein, quand elle dit nous, de là notre négligence à conserver sa beauté? Eh bien, c'est nous ne prenons pas tous les moyens, et là elle a spécialement en tête les vertus évangéliques, hein, pour conserver la beauté de cette âme, et plus encore que la conserver, pour la poursuivre, hein, la qualifier, l'ennoblir. Donc vous voyez, là c'est les deux points clés que je vais développer maintenant. L'oraison, donc conçue comme relation de plus en plus profonde avec cet hôte divin qui demeure dans l'âme, et qu'on va rencontrer en entrant de plus en plus profondément en soi-même. Et puis la vie chrétienne, selon toutes les vertus, hein, humaines et évangéliques, qui est le soin nécessaire que nous apportons à conserver à notre âme sa beauté. Vous voyez, une vie chrétienne conçue comme... Il y a la grâce, hein, et puis il y a la liberté de l'homme et tout le soin qu'il va apporter à répondre à la grâce. Donc l'oraison pour Thérèse, c'est ce qu'elle appelle elle-même la porte d'entrée, hein, dans le château. Je vous lis le passage suivant. Autant que je peux le comprendre, la porte par où l'on entre dans ce château, dans l'âme, hein, c'est l'oraison et la considération. Ici, je ne distingue pas l'oraison mentale de l'oraison vocale, car pour qu'il y ait oraison, il faut qu'il y ait considération. Alors, comment comprendre, hein, elle l'explique après, hein, Considération, ça veut dire attention à la personne à laquelle je m'adresse. En effet, une oraison où l'on ne considère pas à qui l'on s'adresse, où l'on ne considère pas ce que l'on demande, ce que l'on est, la dignité de celui à qui l'on parle, ne peut, à mon avis, s'appeler oraison, bien qu'on y remue beaucoup les lèvres. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que la prière vocale, c'est bien. Elle dit elle-même, je ne sépare pas ici, je ne distingue pas oraison mentale et oraison vocale, mais cette oraison vocale, cette prière vocale n'est prière que si je ne me contente pas de remuer les lèvres, mais que j'ai vraiment le souci de m'adresser au Seigneur à qui je parle, d'être attentif à ce que je lui demande. Thérèse va commenter le Notre Père hein, dans le château intérieur, donc elle a ça en tête, hein. Elle dit, le Notre Père, je peux le dire comme ça en remuant les lèvres et en étant complètement distrait, en ne m'intéressant ni à la personne à qui je parle, ni aux demandes que je formule. Elle dit, ça ne peut plus s'appeler prière, bien qu'on y remue beaucoup les lèvres. Donc, oraison et considération, ça va ensemble. Pour qu'il y ait une oraison véritable, il faut cette attention, ce désir de rencontre, de connaître celui à qui je parle. Et puis cette conscience de la dignité de celui à qui l'on parle, et puis aussi le sérieux de ce que je lui demande. Donc d'emblée, vous voyez, une prière qui est basée non pas sur la forme, la formule, mais vraiment sur l'attitude du cœur. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, c'est à la fois du coup exigeant d'être. Voilà, il ne suffit pas de réciter, de rabâcher, comme dit Jésus dans l'Évangile. Donc c'est exigeant, parce qu'il faut cette vérité du cœur qui prie. Mais en même temps, ça donne une très grande liberté à Thérèse quant aux moyens. Parce que c'est ce qu'elle va dire dans le passage suivant. Je tiens seulement à bien vous avertir que pour faire de grands progrès dans ce chemin, et monter à ces demeures qui sont l'objet de vos désirs, l'essentiel n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Ainsi donc, attachez-vous de préférence à ce qui enflammera davantage votre amour. Donc, voyez, attachez-vous de préférence à ce qui enflammera davantage votre amour. Donc, bon, je ramasse ça dans une formule un peu schématique, mais tous les moyens sont bons. Tout ce qui va favoriser votre amour pour Dieu, tous les moyens sont bons. Donc Thérèse laisse en fait à ces moniales une grande liberté. Il n'y a pas de méthode fixe, il n'y a pas de technique immuable en matière d'amour, il n'y a pas un chemin tout tracé. Chacun doit choisir librement, doit discerner ce qui va l'inciter à aimer davantage, ce qui va enflammer davantage son amour. Donc vous voyez, une liberté par exemple la manière dont je regarde le Seigneur, elle va dire, voilà, faites ce qui vous aide le plus. Vous pouvez traiter avec Dieu comme avec un père, comme avec un époux, avec l'Esprit Saint, avec le Christ, avec le bon pasteur. Donc entrez en relation avec le Christ qui vous parle le plus, que ce soit le Christ enseignant, le Christ souffrant, le Christ transfiguré. Donc une grande variété, vous voyez, dans les rapports que nous sommes appelés à avoir avec le Seigneur. Une grande liberté aussi dans l'attitude de l'âme, qui va varier de la supplication à l'action de grâce, de l'intercession à la louange, selon les circonstances, les événements, les temps liturgiques. Puis aussi une liberté dans le choix des moyens. Thérèse, là aussi, est extrêmement souple. Elle va dire, mais si ça vous aide, prenez un livre. Si ça vous aide, prenez une image. Tout ce qui enflammera votre amour, tout ce qui peut alimenter le feu de l'oraison, ça vous sera profitable. Elle dit elle-même, parce qu'elle a connu donc de nombreuses années d'épreuves et de sécheresse, et elle dit elle-même, jamais pendant tout ce temps, je n'osais faire oraison sans un livre. Aborder l'oraison sans ce secours causait à mon âme autant d'effroi qu'un combat à soutenir contre une multitude ennemie. Mon livre était pour moi une compagnie, même si elle ne l'ouvrait pas. Mais rien que le fait d'avoir le livre à portée de la main, dit mon livre était pour moi une compagnie, un bouclier, sur lequel je recevais les coups des pensées importunes. une autre chose dont elle conseille, une chose qui pourra vous être d'un grand secours, c'est d'avoir avec vous une image, un portrait de notre Seigneur, et là encore, qui soit à votre convenance. Hein ? Donc si vous vous sentez plus proche du bon pasteur, et bien, ayez une image du Christ bon pasteur. Ayez une image du crucifié, du ressuscité, de l'enfant Jésus de Bethléem, hein, etc. Mais attention, poursuit Thérèse, ayez-le pour vous entretenir fréquemment avec lui, et non pas pour le porter sur vous sans jamais le regarder. Oui, c'est, hein, plein, là aussi, plein de réalisme. Hein. Et notre Seigneur lui-même vous fournira ce que vous pourrez lui dire. Donc voyez, une image peut aider, mais là encore, l'image n'est pas une fin en soi, c'est pas un gris-gris, il ne s'agit pas juste d'avoir une image ou une médaille, hein, mais il s'agit que cette image m'aide à avoir en moi une image vivante du Christ, hein, qu'elle alimente une relation, une rencontre. Et plus qu'une rencontre, hein, une amitié, va dire Thérèse. Hein. L'oraison, pour elle, c'est vraiment l'école de l'amitié divine, c'est l'école de l'amour. Vous avez ce passage sur la feuille de route. Selon moi, l'oraison mentale, la prière, hein, n'est pas autre chose qu'une amitié divine, un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. Vous voyez, on pourrait dire que c'est une sorte de définition, hein, de l'oraison, en une seule phrase, mais qu'il faudrait vraiment... Oui, regardez, détaillez chaque mot. Hein. Celui dont nous nous savons aimer. Ah oui, c'est Dieu qui aime le premier. Hein. Donc l'oraison, c'est d'abord un amour à accueillir. C'est un entretien avec celui dont nous nous savons aimer. Donc c'est la première attitude de l'âme dans la prière. Hein. C'est accueillir cet amour premier de Dieu pour elle. Et cet amour, eh bien, je le contemple tout spécialement dans le mystère de l'incarnation et de la passion, hein, qui sont comme les deux piliers, les deux grands lieux qui nous révèlent à quel point Dieu se fait proche de l'homme par amour pour lui. Hein. Donc pour Thérèse, c'est la première attitude, hein, de l'oraison, c'est une attitude d'accueil, hein, de réceptivité. Je me laisse aimer d'abord. Je me laisse aimer par l'amour miséricordieux d'un Dieu qui se fait proche au point de prendre ma nature et de mourir pour moi. Et donc cet accueil premier, hein, de l'amour de Dieu fait que tout de suite l'oraison devient louange, hein, hymne d'action de grâce, reconnaissance. Deuxième point important dans cette petite définition, hein, de l'oraison pour Thérèse, une amitié divine. Ah oui, amitié, donc c'est pas seulement accueillir l'amour dont je suis aimée, hein, dont je me sais aimer. Une amitié, c'est une réciprocité, un amour de réciproque. Et donc Thérèse va toujours définir l'oraison en termes de rencontre, de rapport réciproque entre un je et un tu. Hein. Il y a une relation, il y a une réponse de l'homme à l'amour premier de Dieu. Intime, hein, une amitié intime, c'est toujours la dimension de l'intériorité, hein, de la proximité, de l'intériorité. Un entretien fréquent, seul à seul. Un entretien fréquent. Hein. Thérèse revient très souvent sur la question de la fidélité, de la détermination dans l'oraison. Je vous cite un petit passage que vous n'avez pas. Hein. Donc elle donne des conseils à ceux qui commencent dans l'oraison, c'est donc dans le chemin de perfection au chapitre 21. Elle dit, j'en viens à ceux qui sont décidés à marcher sur ce chemin. Je le répète, comment faut-il débuter ? Je le répète, ce qui est d'une importance majeure, d'une importance capitale, c'est d'avoir une résolution ferme, une détermination absolue, inébranlable, de ne pas s'arrêter avant d'avoir atteint la source. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse survenir, quoi qu'il puisse en coûter, quelques critiques dont on soit l'objet, qu'on doive arriver au but ou mourir en chemin, accablé sous le poids des obstacles, quand le monde enfin devrait s'effondrer. Et donc une détermination à la fidélité. un entretien fréquent. Donc fidélité dans la durée, hein, au long des années qui s'écoulent, mais fidélité aussi chaque jour. Hein. Fidélité au choix que j'ai posé de donner du temps à Dieu chaque matin, ou chaque soir, ou chaque semaine. Donc fidélité journalière et fidélité d'une vie. C'est ça, un entretien fréquent. Donc il y a l'idée de dynamique, de durée, d'approfondissement. Parce que c'est comme dans l'amour humain, l'amour s'approfondit au fil des années dans la fidélité, en traversant des épreuves, des crises, des réconciliations, etc. Mais il faut faire cette épreuve de la durée pour que l'amour mûrisse et se fortifie. Donc la vie spirituelle n'a rien de statique. Et puis surtout, cette oraison pour Thérèse, donc elle ne repose pas sur l'émotion, sur l'envie, sur le sentiment. Aujourd'hui j'ai pas envie, demain j'aurai plus de temps, aujourd'hui il fait moche, ou aujourd'hui je suis triste, je prierai quand mon âme sera dans la joie. Non. C'est une prière qui repose sur d'abord la détermination initiale, et puis sur la foi. J'ai posé un choix de préférence, je me sais aimé de Dieu, et j'ai choisi fermement de le préférer à tout, de lui répondre, coûte que coûte. Et pour soutenir cette vie de prière, pas seulement pour la soutenir d'ailleurs, mais pour permettre son approfondissement, et puis aussi pour veiller sur son authenticité, eh bien Thérèse va accorder une large place aux vertus. On en reparlera peut-être plus longuement encore la semaine prochaine avec François de Sales, mais je le mentionne quand même ici parce que ça prend de la place dans l'œuvre de Thérèse. Vous avez cette citation: avant de parler de ce qui est intérieur, c'est-à-dire de l'oraison, donc avant de parler de l'oraison, je vous indiquerai certaines choses bien nécessaires aux âmes qui prétendent marcher dans ce chemin de l'oraison. Sans elles, il leur sera impossible d'être grandes contemplatives, et même elles se tromperont singulièrement si elles croient l'être. Je ne développerai que 3 points. Le premier, l'amour mutuel, l'amour fraternel. Le deuxième, le détachement de tout ce qui est créé, l'oubli de soi, la pauvreté intérieure. Et le troisième, l'humilité véritable. Donc vous voyez, elle dit avant de parler de l'oraison, mais en fait ça va prendre la moitié de l'ouvrage, pour vous dire à quel point elle accorde de l'importance à ces vertus qui sont comme le soutien de tout l'édifice. Et c'est là qu'on voit ce réalisme de Thérèse d'Avila. C'est tout l'homme qui s'engage sur le chemin vers Dieu. Donc il n'y a pas d'oraison véritable, durable, sans un amour fraternel réellement vécu, puisqu'elle s'adresse d'abord avant tout à des carmélites qui vivent en commun. Et donc l'amour de Dieu, c'est toute la théologie johannique, l'amour de Dieu se vérifie, se prouve, se concrétise, s'incarne dans la charité fraternelle, sous peine de n'être qu'une illusion. Pensez à ce verset de Saint Jean, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Ça ne veut pas dire qu'on arrive bien à aimer son frère. Et là aussi, Thérèse est très généreuse en conseils très concrets pour voir comment, quand on a du mal dans l'amour fraternel, comment ruser pour découvrir quand même en l'autre quelque chose d'aimable sur lequel je vais pouvoir m'accrocher pour l'aimer malgré tout, etc. Donc là aussi, vous voyez, une attention aux moindres détails de la vie fraternelle. Elle donne par exemple des clés précieuses pour cette vie de charité fraternelle. Elle dit par exemple qu'il ne faut pas s'arrêter, non seulement il ne faut pas s'arrêter, ça c'est déjà dans l'évangile, il ne faut pas s'arrêter aux pailles qu'on peut voir dans la vie des autres, mais on doit surtout s'arrêter quand on est face à quelqu'un qu'on a du mal à accueillir, à aimer. Il faut absolument porter toute son attention à déceler en lui le moindre petit germe de quelque chose d'aimable. Et parce que ce petit germe va devenir une mine d'or, si on sait l'exploiter. un autre conseil important qu'elle donne, exigeant, hein, quand on remarque, quand on est témoin d'une faute, d'un défaut de l'autre qu'on croit remarquer, bah, il ne suffit pas encore de le supporter, de pardonner, de prier pour l'autre. Mais là aussi, vous voyez, c'est très, très engageant, très exigeant. Il faut s'efforcer de pratiquer la vertu contraire à ce défaut qu'on a repéré chez l'autre. Pourquoi ? Pas pour lui faire la leçon, hein, mais parce que le témoignage de la vie selon la vertu va être la meilleure, le meilleur stimulant, le meilleur encouragement, le meilleur chemin pour que l'autre devienne à son tour désireux d'acquérir la vertu. On pourrait développer pendant longtemps, hein, ce réalisme thérésien, je ne le fais pas ce soir, mais juste pour résumer brièvement sa spiritualité, hein, tout chez elle respire l'équilibre, vous voyez, il n'y a pas d'excès, tout est réaliste, rien n'est forcé ni excessif. Il s'agit d'abord de mettre de l'amour dans les petites choses de la vie quotidienne, avec un grand respect pour la personne de l'autre, hein, qu'on va servir en cherchant le bien de l'autre et en s'oubliant soi-même pour le bien de l'autre. Mais Thérèse a aussi une grande compassion, une grande compréhension pour nos propres faiblesses, nos limites. Elle dit ça prend du temps, ça s'apprend, on grandit, et rien n'est forcé. Il n'y a pas d'austérité corporelle exagérée chez elle. Mais surtout un grand réalisme, aussi bien naturel que surnaturel, un grand sens de la psychologie, de l'âme. Et puis surtout une grande joie. Pour elle, la première qualité de la vie commune, c'est la joie. Dans les Carmels, aux récréations, qu'est-ce qu'on faisait ? On chantait, on dansait, on jouait des castagnettes. C'était aussi un témoignage d'amour fraternel que de se donner cette joie simple, la joie d'une vie donnée à Dieu. Et donc pour ça, pour l'oraison, vous voyez, tout ça c'est fondamental. Alors sur ces fondements, donc la conscience de l'hôte divin qui demeure dans l'âme, le désir d'avancer dans l'oraison, et puis le choix d'une vie selon les vertus évangéliques, bien sur ces fondements, Thérèse va ensuite développer tout un itinéraire de la vie d'oraison, basée sur sa propre expérience, hein, qu'elle partage bien simplement. Et donc là encore, elle va... Alors, il y aurait plusieurs symboles possibles, hein, selon ses ouvrages, mais j'en ai retenu un qui est assez connu, hein. Elle va parler dans le chemin de perfection de 4 degrés d'oraison. Là encore, 4, c'est un chiffre un peu schématique, parce que c'est 4 avec plein de nuances. Vous voyez, il y a des intermédiaires entre chaque degré, donc c'est pas 1, 2, 3, 4, hein. Et elle va partir d'une image, là aussi, très simple. Elle dit, il y a 4 manières d'arroser son jardin. Notre âme n'est pas seulement un château, elle est aussi un jardin. Celui qui commence à faire d'oraison doit se représenter qu'il entreprend de transformer un jardin entièrement inculte et couvert de mauvaises herbes en un jardin d'agrément pour notre Seigneur. C'est le divin maître lui-même qui arrache les mauvaises herbes, qui plante les bonnes, et nous supposons que c'est chose faite lorsqu'une âme a résolu de s'adonner à l'oraison, et que déjà elle s'y exerce. Donc vous voyez, quand on décide de faire oraison, c'est déjà le fruit d'une grâce, hein. Le Seigneur a déjà œuvré dans notre jardin. Mais notre tâche à nous, en tant que bons jardiniers, c'est de travailler à cultiver et arroser les plantes avec l'aide de Dieu, afin de les empêcher de mourir, etc. Pour moi, il me semble qu'il y a 4 manières d'arroser. On peut d'abord tirer péniblement l'eau d'un puits. Alors, c'est très bien, mais on tire un seau après l'autre et on fait des allers-retours avec son seau pour aller arroser son jardin. On peut aussi se servir d'une noria et de godets mis en mouvement au moyen d'une manivelle. Et moi-même, je m'en suis servi quelques fois. On se fatigue moins. Et on obtient une plus grande quantité d'eau. Vous voyez, on peut, avec une manivelle, on peut puiser plusieurs seaux en même temps. On peut encore amener l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau. Ah bah oui, on fait des canaux d'irrigation, on détourne le cours d'un ruisseau qui va arroser le jardin. L'arrosage est alors plus complet. La terre s'imbibe d'eau plus profondément, il n'est pas nécessaire d'arroser aussi souvent, et le jardinier n'a pas autant de fatigue. Et puis enfin, la quatrième manière, hein, la pluie. Ah bah oui, c'est la première à laquelle on devrait penser. Hein. Première manière d'arroser un jardin. La pluie abondante, c'est sans comparaison la meilleure de toutes les manières, le Seigneur dans ce cas arrosant lui-même, sans aucun travail de notre part. Ah oui, mais par contre il arrose quand il veut, hein, parce qu'on ne peut pas commander à la pluie de tomber quand on veut. Ce que je prétends maintenant, c'est appliquer à mon sujet ces quatre manières de dispenser à un jardin l'eau nécessaire à son entretien et dont il ne saurait être privé sans périr. Je pourrais par là, j'espère, donner une certaine idée des quatre degrés d'oraison auxquels le Seigneur, dans sa miséricorde, a quelquefois élevé mon âme. Voilà. Je sais que je savais d'avance que je n'aurais pas le temps de lire avec tous les quatre degrés d'oraison, c'est pour ça que je vous ai mis des extraits, mais je voudrais m'attacher surtout au premier, hein, non seulement parce qu'il est premier, mais que pour Thérèse, on doit toujours y revenir. Hein. C'est pas parce qu'on avance qu'on doit délaisser les premières demeures chez Thérèse. Hein. Donc je voudrais m'arrêter là-dessus parce que c'est là où il y a les enseignements les plus importants, les plus permanents. Donc le premier degré d'oraison pour Thérèse, c'est ce qu'elle appelle donc l'oraison vocale et mentale, ou la méditation. Hein. Pour elle, il s'agit de s'attacher très amoureusement à la sainte humanité du Christ. Elle dit dans le chemin de perfection, « Pour prier comme il faut, vous savez déjà qu'on doit commencer par examiner sa conscience, réciter le Confiteor, faire le signe de la croix. » Là aussi, il faudrait détailler pourquoi ces trois points. Examiner sa conscience, c'est s'ouvrir au regard de Dieu en vérité. Le Confiteor, eh bien, c'est voilà, la contrition, hein, accueillir, après avoir reconnu, s'être ouvert au regard de Dieu, examiner sa conscience. Eh bien, contrition, demander l'intercession de Marie et des saints. Hein. Et puis le signe de croix, parce que l'oraison est trinitaire. Hein. Invoquer l'Esprit-Saint, qui est le grand maître intérieur de l'oraison, c'est l'Esprit-Saint. C'est lui qui va murmurer en nous « Abba, Père », c'est lui qui nous apprend à prier, hein, dit saint Paul. C'est lui qui prie en nous. Et qui fait de nous des fils dans le Fils. D'où la place que Thérèse accorde au Christ. Méditer sur la vie du Christ. Je vous laisserai lire vous-même la citation. Pour Thérèse, l'oraison, c'est vivre en compagnie du Christ. C'est contempler le Christ à l'intérieur de notre âme. Ça aussi, ça repose sur des expériences anciennes dans sa vie, hein, quand elle était petite. Il y avait dans la maison familiale un grand tableau représentant le Christ avec la Samaritaine. Et avec cette petite légende, « Seigneur, donne-moi de cette eau ». Donc Thérèse a été marquée aussi par cette image. Pour elle, l'oraison, c'est le Christ et la Samaritaine. C'est l'âme qui demande au Christ « Donne-moi de cette eau vive ». Et puis je voulais rapporter, il y a aussi eu donc ce petit épisode de cette statue du Christ qui l'a tellement bouleversée. Ce qui fait que voilà, toute la première manière de faire oraison pour Thérèse, eh bien, c'est de se représenter Jésus-Christ au-dedans de nous. Là encore, en choisissant un épisode de la vie du Christ, une image qui nous marque particulièrement. Pour Thérèse, ce premier degré d'oraison prépare l'âme à ce qu'elle va appeler l'oraison de recueillement. Un recueillement, dans son langage, c'est un sens très précis. Vous en avez la citation. On l'appelle oraison de recueillement parce que l'âme y recueille toutes ses puissances. Vous voyez, c'est recueillement au sens de rassembler en soi ses puissances. Dire quoi, ses sens, hein, son ouïe, son toucher, sa vue, etc. Sa mémoire, son imagination. Rassembler, recueillir toutes ses puissances pour se retirer au-dedans de soi avec son Dieu. On sait que c'est une difficulté que chacun d'entre nous rencontre, hein, cette difficulté du du recueillement au sens de, du rassemblement de tout, tout ce qui en nous est complètement dispersé. Hein. Ça prend du temps de se recueillir, hein. Cueillir à nouveau, rassembler. Voilà encore, Thérèse est très encourageante, elle dit au début c'est difficile, on met du temps, on a du mal, etc. Mais elle dit au bout d'un moment, je voudrais vous citer ça parce que c'est très mignon, vous l'avez, c'est la fin de la citation, hein. Au bout d'un moment ça devient comme immédiat, hein. Dès qu'on se mettra en prière, on verra les abeilles se rendre à la ruche et y entrer pour faire leur miel. Hein. Donc les abeilles c'est ça, c'est toutes les puissances, hein. Tout ce qui est les distractions, l'imagination, la mémoire, hop, tout vient comme un essaim d'abeilles qui rentre à la ruche dès qu'on l'appelle. Et donc cet horizon de recueillement prépare, donc un point important, cet horizon de recueillement pour Thérèse, c'est ce qui est encore en notre pouvoir, avec la grâce de Dieu bien sûr, hein, mais c'est ce qui est l'objet de notre labeur, hein, de l'exercice de l'âme qui fidèlement revient, apprend, mûrit, etc. Tandis qu'à partir de l'horizon de quiétude, hein, ce qu'elle appelle l'horizon de quiétude, ou encore de recueillement passif, alors là c'est l'action de Dieu. Nous on a fait tout ce qu'on a pu, hein, pour donner du temps à Dieu, méditer sur la vie du Christ, se recueillir et entrer en soi-même, mais ensuite c'est la liberté de Dieu, la souveraine liberté de Dieu qui nous conduit. Et donc pour l'horizon de quiétude, elle aime à prendre cette image, vous lirez aussi vous-même l'extrait, hein. C'est un petit nourrisson en fait qui est attaché au sein de sa mère et qui se laisse nourrir. Il n'a qu'à ouvrir la bouche et c'est Dieu qui lui dispense le lait sans qu'il ait lui-même à remuer les lèvres. Hein. Autrement dit, auparavant, j'essayais de me recueillir, hein, et à partir de ce troisième degré de l'oraison, comme le dit un auteur assez joliment, je me laisse recueillir. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui m'attire au-dedans. Donc, oraison de quiétude ou de repos en Dieu, si vous voulez. Et puis enfin, donc ce degré ultime, ce que Thérèse appelle l'union, hein, qui est finalement ce qui motive tout l'élan de l'âme, hein, qui désire être unie à son Dieu, hein, ce quatrième degré de l'oraison, l'union. Où là aussi, les symboles se multiplient, hein, c'est comme deux cierges qui sont tellement unis qu'il n'y a plus qu'une seule flamme, ou c'est comme l'eau de la rivière qui accueille l'eau du ciel et on ne peut plus distinguer l'une de l'autre. Donc c'est l'image nuptiale évidemment, hein, qui va dominer, hein, dans tout ce que Thérèse dit. Et là encore c'est évidemment, vous voyez, l'action de Dieu, hein, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui réalise cette union. Mais en même temps, c'est une union qui est, voyez, le fruit de tout cet élan de l'âme, cet amour, ces actes de charité fraternelle, ce décentrement de soi, hein, cet oubli de soi-même, qui fait que l'âme est de plus en plus fascinée par la beauté de Dieu. Hein, elle va rencontrer enfin, comme disait Thérèse, hein, celui qui habite le plus secret de l'âme, l'esprit de l'âme, comme elle dit. Et donc c'est une attitude à la fois d'union, mais d'adoration, vous voyez, où l'âme est entièrement dépouillée d'elle-même, morte à elle-même, vous voyez, mais une mort d'amour, évidemment. Vous avez peut-être aussi lu cette autre image qu'elle prend souvent du petit ver à soie, hein, qui se transforme en un beau papillon blanc. Et elle dit, mais dans cette oraison d'union, c'est la mort du papillon blanc, parce qu'il est mort d'amour, hein. C'est pas une mort au sens négatif, mais il est mort d'amour. Il ne fait plus qu'un avec celui qu'il a cherché, qu'il a voulu rencontrer. Voilà, je m'arrête, mais je ne peux que vous inviter à découvrir par vous-même plus avant les œuvres de Thérèse d'Avila, et puis surtout à vous mettre à son école, hein, pour cette vie de prière à laquelle tout chrétien est convié, évidemment, et pas seulement les carmélites. Hein. Voilà. Donc la semaine prochaine, on continuera sur la même lancée, hein, avec François de Sales, parce que c'est aussi un grand maître spirituel, et qui parle aussi beaucoup de la prière. Mais alors comme j'ai beaucoup parlé de la prière ce soir, La semaine prochaine, chez François de Sales, je m'intéresserai davantage aux vertus, hein, puisque Saint François de Sales, c'est la prière et la sainteté pour tout chrétien, quel que soit notre état de vie. Hein, et il accorde aussi une grande place aux vertus évangéliques. On l'a surnommé le docteur de la douceur évangélique. Voilà.